J'avais un message pour vous, un court message pour nous ce matin. Et je pense qu'ici, dans cette salle-là, on connaît tous des phrases célèbres, des citations célèbres, qui ont été rendues célèbres par un moment de l'histoire ou par un personnage de l'histoire, un moment clé de l'histoire. Je pense que vous connaissez tous la citation de Neil Armstrong quand il a marché pour la première fois sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour... C'est pas loin. Deuxième citation aussi, vous connaissez peut-être quand c'est Martin Luther King qui fait son discours. Quelle est la phrase célèbre de Martin Luther King? I have a... Yes, I have a dream. Même la citation de Leonardo DiCaprio quand il est devant le Titanic et qu'il hurle « Je suis le maître du monde !» Vous la connaissez sûrement. Et une de mes citations aussi préférées, c'est celle de Tom Hanks dans le film Forrest Gump. « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. » On ne sait jamais sur quoi on va tomber, sur quel prédicateur on va tomber, sur quelle prédication on va tomber, sur quelle église on va tomber. J'aime beaucoup cette citation-là. On connaît tous des phrases célèbres. Et ce matin, alors qu'on est dans notre série « Découvrir Jésus au travers de l'évangile de Jean », je voulais qu'on voit ensemble à l'un des versets les plus célèbres de la Bible. En fait, même si vous faites un mot croisé, imaginons, puis que vous voyez, il est marqué alors « 30 mots en horizontal, une preuve d'amour », voici la réponse. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je suis sûr qu'il y en a plein qui s'amusent à compter s'il y en a bien 30 mots là-dedans. Je les ai comptés environ 6 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. La référence de Jean 3,16, elle se retrouve partout. Vous la retrouvez partout, même dans le sport. Dans le sport, alors qu'il y a des supporters qui sont en train d'acclamer leur équipe, on voit souvent des pancartes avec la référence de Jean 3,16. Même un joueur de NFL, Tim Tebow, a inscrit un jour sous ses yeux la référence de Jean 3,16. Jean 3,16 est même le verset biblique qui est le plus souvent utilisé pour des mots de passe informatiques. Si vous avez ça comme mot de passe, on donne des bons conseils des fois à Nouvelle Vie. Même si vous venez pas souvent à l'église, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Jean 3,16. Et si c'est pas le cas, vous l'avez entendu dans les chants et on va en parler ce matin, donc c'est pas grave, on va se rattraper. Mais malgré tout, on pourrait avoir un peu de la difficulté avec ce verset. Même s'il est connu, même s'il est célèbre, on pourrait avoir un peu de la difficulté avec ce verset parce qu'il parle de quelque chose qui est un peu bizarre. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que ça? On pourrait penser que la vie éternelle, c'est une longue vie plate et monotone sur les nuages où on est tous en robe blanche, on joue de la harpe avec des ailes, avec un petit arceau au-dessus de la tête et bling, bling, bling. La vie éternelle n'a rien à voir avec ça. C'est une vie complète. Une vie de joie, une vie de paix qui va, oui, durer éternellement. Mais c'est pas juste pour une vie future. Dans l'évangile de Jean, quand il parle de la vie éternelle, il faut comprendre qu'il parle, oui, d'une vie future, mais c'est pour une vie aussi qui est maintenant. C'est pour une vie pour maintenant. Un pasteur a dit ceci à propos de ce verset, que ce verset ne parle pas de comment nous amener au ciel, mais comment amener le ciel en toi, aujourd'hui, maintenant. La vie dont ce verset parle, c'est une vie de paix. C'est une vie de joie. C'est une vie qui donne un sens à ta vie. Une vie comme Dieu l'a prévu. Une vie à laquelle nous pouvons avoir tous un accès aujourd'hui. Maintenant, oui, c'est une vie de paix, oui, c'est une vie de joie, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout va être beau, tout va être parfait, tout va être rose. On vit dans la réalité. On n'a pas encore un accès à une pleine vie de paix et de joie. On peut l'avoir à l'intérieur, mais ce n'est pas entièrement parfait. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tout va bien aller. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, qu'on n'aura jamais de problème, positive attitude, on grossit pas quand on mange du McDo. Et puis d'ailleurs, on mange même pas de McDo, on boit juste des smoothies verts, bananes, kiwi, avocat. Hashtag bio, hashtag santé, hashtag j'aime la nature. Non, merci Seigneur qu'on soit pas obligé d'aimer ce genre de truc vert qui sort de ton évier. Pff. On vit dans la réalité. On vit dans cette réalité-là, on vit des difficultés aussi. Mais avoir la vie éternelle en soi, Ça va t'aider à affronter les épreuves que tu vas vivre dans ton quotidien d'une façon totalement différente. Plusieurs le savent, en avril dernier, mon grand-père est décédé à l'âge de 86 ans. Et mon grand-père aimait Jésus. Mon grand-père était un exemple, il croyait en Jésus. Et durant toute sa vie, il est passé par de multiples épreuves, des lourdes épreuves. Avec ma grand-mère, ils ont eu 6 enfants. Déjà rien que ça. Et en plus, ils ont été les parents de ma mère et de ma tante. Dieu les bénisse. Je plaisante, j'aime ma mère et j'aime ma tante. Elles sont extraordinaires. Mais 6 enfants, c'est quand même quelque chose. Et à l'âge de 15 ans, leur aîné est décédé d'une tumeur au cerveau. Et durant plus de ça, toute sa vie, mon grand-père est passé par de multiples et lourdes opérations. Tellement que quand il enlevait son t-shirt, je voyais tellement de cicatrices, son corps était couvert de cicatrices et ça me mettait des frissons dans le dos quand je voyais ça. Après, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis un peu sensible hein, sur ce genre de choses. Je me coupe avec une feuille en papier et une goutte de sang et pendant 30 minutes, je suis les pieds en l'air en train d'agoniser. Je suis sensible, je le reconnais. Mais c'était impressionnant de voir ça. Même à la blague, on lui disait, hey, papy, la prochaine fois, demande une fermeture éclair, hein, ça ira plus vite. Il est passé par un nombre incalculable d'épreuves et j'en passe des détails. Il est passé par des très hauts, mais par des très, très, très bas. Par des moments durs, de souffrance que beaucoup auraient eu du mal à supporter. Et c'est normal. Même moi, j'aurais du mal à vivre la moitié de la vie qu'il a vécue. Mais papy avait la paix. Papy avait une joie qui semblait être inébranlable. Oui, c'était un râleur parce que c'était un Polonais. Mais il avait une joie inébranlable qui ne dépendait jamais des circonstances. Pourquoi ? Parce qu'il vivait la vie éternelle. Comment ? Parce qu'il croyait et qu'il connaissait le Dieu d'amour. On a besoin de comprendre, comme l'a dit Pasteur Ben dans la vidéo, qu'on est tous des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Puis si t'en veux la preuve, et si t'as des enfants ou si tu connais des amis qui ont des enfants, regarde juste aux enfants. On n'a pas besoin de leur apprendre grand-chose hein, pour qu'ils puissent développer la désobéissance, le mensonge, l'égoïsme, les crises. Ils n'ont pas besoin d'un PhD pour savoir comment faire ça. Hein. C'est inné en eux. Et je sais que le terme péché fait vraiment old school, un peu ancien temps, mais il faut vraiment comprendre la notion de péché comme manquer sa cible. Vous savez, comme quand un archer tire et il manque la cible, c'est ça péché. C'est j'ai manqué la cible, j'ai manqué le coup, j'ai manqué le plan parfait que Dieu avait prévu pour moi. Et tout l'univers est marqué par le péché. La terre et le réchauffement climatique subissent les conséquences d'un monde qui est brisé par le péché. Les violences qui augmentent à Montréal, c'est la conséquence d'un monde qui est brisé par le péché. Les abus, l'augmentation des maladies mentales, c'est la conséquence d'un monde qui est brisé par le péché. Même les souffrances, les divisions dans les familles, les divisions même dans les amitiés sont la conséquence d'un monde qui est brisé par le péché. Même la voiture ce matin quand tu es venu à l'église, qui n'a pas mis son clignotant, qui s'est rabattu sur toi, c'est la preuve. Nous vivons dans un monde qui est brisé par le péché. On est tous brisés par le péché. Mais après, certains, ils sont capables de tout réparer. Je les vois, je les connais, ils sont impressionnants. On leur donne un bout de tape et ils réparent une maison. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je suis capable de tout casser, mais incapable de réparer quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas réparer ça dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique. Parce qu'on est incapable de nous réparer par nous-mêmes. Mais en plus de ça, non seulement c'est pour nous réparer, mais c'est aussi, il a envoyé son Fils unique parce qu'il nous aime. Et ce fameux verset de Jean 3,16 commence comme ça. Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. C'est la révélation que nous avons un Dieu d'amour. Dieu t'aime ce matin. Et peut-être que pour plusieurs, l'idée de croire qu'un Dieu qui aime le monde, ça semble être à peu près envisageable. Pourquoi pas un Dieu qui aime le monde? Ok, mais pas seulement le monde, toi. toi aussi. Et là, peut-être pour toi, ça bloque dans ta tête. Parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'un Dieu peut-il m'aimer moi? Comment est-ce qu'un Dieu peut-il m'aimer alors que je fais souffrir tous ceux qui sont autour de moi? Comment est-ce qu'il peut m'aimer alors que moi je suis indépendant à la pornographie, à l'alcool et à la drogue, à la violence? Comment est-ce qu'il peut m'aimer moi alors que j'ai détruit mon mariage, alors que j'ai fait du mal à mes enfants? Comment est-ce qu'il peut m'aimer moi alors que ma famille, mes amis, mes parents ne m'aiment pas? Comment il peut m'aimer alors que même moi je ne m'aime pas? Sache que Dieu ne t'aime pas par pitié. Il y a dernièrement eu un concours du chien le plus laid au monde. Tu peux mettre la photo. C'est le chien le plus laid au monde. Et la propriétaire reconnaît. Elle reconnaît qu'elle a acheté ce chien et qu'elle a commencé à aimer ce chien par pitié. Attends, vu sa tête. C'est par pitié. Mais Dieu ne t'aime pas par pitié. Il ne t'aime pas non plus pour ce que tu peux lui offrir en retour, comme les enfants qui viennent voir leurs parents. « Papa, maman, je t'aime. Hein. On peut aller au McDo ce midi ?» Il y a des parents qui rigolent, on sent un certain vécu ici. Non. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Jean, on l'a lu tout à l'heure en Jean 3,16, c'est son évangile, mais il a aussi écrit des lettres. Et dans une de ses lettres, dans 1 Jean au chapitre 4 et verset 8, il dit ceci, « Dieu est amour. Dieu ne t'aime pas parce que t'es gentil. Dieu ne t'aime pas parce que t'es mignon. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu pourrais lui donner en retour. Dieu t'aime pas par pitié. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour obtenir l'amour de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire même pour que Dieu arrête de t'aimer. » Dieu est amour. Dieu t'aime. C'est son être, c'est son essence, c'est qui il est. Il est amour. Il y a un prédicateur célèbre qui s'appelle Paul Washer qui a dit ceci. Les hommes doivent savoir qu'il est bien plus aisé de compter toutes les étoiles du ciel ou tous les grains de sable sur la terre que de mesurer ou de tenter de décrire l'amour de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard comme plusieurs le supposent, où il est sur son trône avec une grosse barbe blanche prêt à fouetter le premier qui fait n'importe quoi. Après le verset de Jean 3,16, il y a le verset 17. On réfléchit un petit peu. Il y a le verset 17. Et voici ce que dit Jésus juste après avoir dit Jean 3,16. Il dit, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu nous prouve son amour. Parce que si je dis à ma femme, chérie, je t'aime, mais que je ne fais rien pour le lui montrer, ni par mes actions, ni par mes paroles, ni par mes gestes, on est d'accord qu'elle va commencer à en douter, non? Elle va commencer à en douter. Et c'est normal, on ne pourrait pas lui en vouloir. Parce qu'on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Et Dieu a prouvé son amour pour toi. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ceci en Romains 5. Il a dit, Dieu t'a tellement aimé là, alors que t'étais encore pécheur, alors que t'es pécheur, Christ est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Voilà le don de Dieu. Voilà la preuve d'amour de Dieu. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus pour qu'il puisse porter et recouvrir tous tes péchés. Tous tes fautes. Et avoir accès à cet amour, c'est possible ce matin pour toi. On va relire Jean 3,16, la moitié du verset, marqué « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » Répétez après moi, quiconque. Quiconque. N'importe qui. Peu importe qui tu es. À partir du moment où tu respires et que tu es un être humain, bonne nouvelle, tu corresponds au profil. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que les personnes riches et les personnes pauvres, afin que les malades et les bien portants, afin que les jeunes et les moins jeunes, afin que les personnes anxieuses ou dépressives, les personnes même non désirées par leurs parents, afin que même ton voisin de ta maison qui est toujours un gros râleur, afin que même la personne qui t'a volé ta place de stationnement ce matin, afin que moi, on puisse croire et avoir la vie éternelle. Dieu te donne un choix simple ce matin, un choix tout simple. Il te dit, j'ai donné mon fils pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses avoir un sens à ta vie. J'ai fait la plus belle et la plus grande preuve d'amour de l'histoire. Maintenant, il te suffit d'une chose. Crois. Crois en moi. Dieu offre le choix. Il n'impose ça à personne. Il offre le choix. Exactement comme un malade qui a une grave maladie que le médecin vient voir, j'ai un traitement. À vous de choisir. Oui ou non. Comme une personne qui est en train de se noyer dans l'eau, à qui on lance une bouée. Attrape la bouée ou non. Et je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais moi, je crois, mais je pratique pas. Moi, je crois, mais de loin. C'est comme si tu disais, je crois que la bouée peut me sauver, mais je me débrouille par moi-même. Je crois que le médicament peut me guérir, mais non, je le prends pas. Parce que croire dans la Bible, quand on voit cette notion de croire, ça implique toujours derrière une relation. Une relation avec Dieu. Croire, ça implique de dire, ok Seigneur, ok Jésus, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur, c'est toi qui as le contrôle de ma vie maintenant. Ça veut dire ça, croire. Et c'est pas d'une religion que je vous parle ce matin. C'est pas une religion. C'est une relation. Et c'est une relation qui implique de croire. Et ça peut nous sembler tellement difficile de se dire, mais comment croire? C'est tellement dur. Mais en fait, croire, c'est aussi simple que voir. Juste avant le verset 16 et le verset 14 et 15, j'ai fait des études. Et juste avant, Jésus dit ceci. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, il y en a qui sont en train de se dire, je suivais à peu près le Jean 3,16 là, mais là, avec ton histoire de serpent dans le désert élevé, pasteur, je vois pas le rapport un petit peu avec ton Jean 3,16. Suis-moi un petit peu là, ici. En fait, il faut comprendre que lorsque Jésus parle de cette histoire-là, des années, des centaines et des centaines d'années avant, il s'est passé quelque chose d'important. En fait, des centaines d'années avant la venue de Jésus, le peuple juif était sous l'esclavage en Égypte. Un esclavage dur et violent. Et Dieu a envoyé un de ses serviteurs qui s'appelle Moïse pour les délivrer de l'Égypte. C'est cool, plus d'esclavage. Et pour, il avait un plan aussi, Dieu. Il s'est dit, ok, maintenant que je les ai délivrés, je vais les amener dans un pays incroyable, prospère, où ils vont avoir du fruit, où ils vont pouvoir cultiver, où ça va être génial pour eux. Mais avant ça, pas le choix, faut passer par le désert. Et alors qu'ils sont en plein désert, le peuple juif, c'est en hébreu que ça dit, ils sont en train de chialer. Ok? En bon hébreu, ils chialent. Ils sont pas contents. Ils passent par le désert. Ils reviennent à regretter, hey, ma vie avant sous l'esclavage, elle n'était pas si pire. Et à cause de leur ingratitude, Dieu permet juste à ce que des serpents viennent les mordre. Et plusieurs tombent malades, plusieurs viennent même à mourir. Et Dieu dit alors à Moïse, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer, tu vas fabriquer un serpent en airain. Autrement dit, l'airain, c'est du bronze. Et voilà ce qui est écrit dans le livre de Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 21, verset 9. Moïse fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Et là, vous êtes encore plus mêlés parce que vous dites, c'est quoi le rapport avec ton Jean 3,16? On va y venir. C'est quoi le rapport? Voilà comment il faut comprendre cette histoire. Voilà pourquoi Jésus a utilisé Jean 3,16. Les Juifs étaient condamnés par le poison des serpents. Les Juifs n'avaient aucun remède, aucune solution pour vivre, aucune solution pour être guéri de ce venin-là. Nous sommes condamnés par le poison de nos péchés. Nous sommes condamnés par le poison de nos fautes. On est condamnés, on n'a aucun remède pour nous en sortir comme ces gens-là. Et la solution à l'époque, ça a été de faire un serpent en airain. Pourquoi un serpent? Je me fais mordre par un serpent, il faut que je regarde un serpent, c'est un peu bizarre. En fait, ce serpent en airain, il était le symbole de leur malédiction. Il était le symbole de leur souffrance, le symbole du poison qu'il y avait en eux. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a porté ta malédiction. À la croix, Jésus a porté ta souffrance. À la croix, Jésus a porté ta dépression, ta tristesse, ta culpabilité, ta honte, ton sentiment d'être inutile. À la croix, Jésus a porté tout ça, le poids qu'il y a sur ta vie. Et le peuple juif ne devait faire qu'une seule chose, regarder au serpent. Pas besoin de se traîner pendant des kilomètres sur des morceaux de verre, pas besoin de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, pas besoin de prouver que je suis une bonne personne, je mérite d'avoir la guérison. Non, juste regarde. Croire en Jésus, c'est aussi simple et suffisant que de regarder. Et j'ai entendu des gens déjà entendre ce genre d'histoire être un peu gênés, me dire « Non mais moi je dois le prouver. Je dois prouver que je suis une bonne personne pour être sauvé. Je dois prouver par mes mérites que je suis capable d'être sauvé. Je suis une bonne personne. » Non. Si tu viens à Jésus avec tes forces, avec tes bonnes actions, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il n'y a qu'un moyen de venir à Jésus. C'est avec humilité. On l'a écouté tout à l'heure dans la vidéo, mais les religions nous disent « Voilà tout ce que tu dois faire pour gagner le ciel. Voilà toutes les méditations que tu dois faire pour toucher le nirvana. Voilà toutes les réincarnations que tu dois faire pour espérer atteindre cette paix-là. » Mais ce matin, Dieu dit « Non, je t'ai tellement aimé que je t'ai offert l'impossible. J'ai gagné le ciel pour toi. T'as rien à faire. T'as juste à voir et à croire. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Je suis pas sauvé, moi, ce matin, parce que je prêche, parce que j'enseigne, parce que j'étudie la Bible. On n'est pas sauvé parce qu'on est des gentils chrétiens et puis on chante le fort le dimanche matin. Nous sommes sauvés par ce que la Bible appelle la grâce. Quelque chose d'immérité. Quelque chose qu'on peut pas acheter. Quelque chose qu'on a besoin de rien de faire, juste de dire « j'en ai besoin ». J'en ai besoin, j'ai besoin de croire en Jésus. Peu importe qui tu es. J'ai entendu des médecins, des prisonniers, des banquiers, des criminels, des pères, des mères, juste dire « je veux croire, j'ai besoin de croire ». Et leur vie a été changée. On a écouté les témoignages ce matin. La vie a été changée. Je veux croire, j'ai besoin de croire. Ce matin, tu es ce quiconque de Jean 3,16. Tu n'es pas quelconque aux yeux de Dieu. Ça englobe tout le monde. Et tu peux mettre la diapo 20. Il y a des blancs là. J'ai enlevé le monde et j'ai enlevé le quiconque. Mets ton nom dans ce verset. Mets ton nom. Dieu t'a tellement aimé. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, Dieu t'a aimé. Les baptisés ce matin n'ont pas pris leur baptême parce que ce sont des bonnes personnes extraordinaires. Même si elles sont extraordinaires. Elles ont pris leur baptême parce qu'un jour, elles ont dit « Je crois que Jésus a payé ma faute. Et j'ai besoin de rien de plus. J'ai besoin de rien de plus. » Un jour, ils ont cru que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que Trésor, Johanna, Rebecca, Florian, toi, puisse croire afin d'avoir la vie éternelle. Veux-tu croire ce matin? Je vais vous inviter à vous lever. On va conclure ce moment. Je vais vous inviter aussi à incliner vos têtes. On va tous passer un moment juste devant Dieu, tête à tête avec Dieu. Chacun à sa place, chacun, peu importe qui est ton voisin, peu importe où ça se trouve, juste incline la tête et comme si tu étais devant, entre toi et Dieu.
Ce matin, peut-être que tu es en train de réaliser cette chose incroyable. Tu es celui, tu es celle que Jésus aime. Peu importe tes erreurs, peu importe tes doutes, peu importe tes angoisses, tu es celui et celle que Jésus aime. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui disent « t'as aucune valeur ». C'est faux. T'as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. S'il n'y avait eu que toi à sauver, Jésus aurait fait ce pas-là, juste pour toi. S'il n'y avait eu que toi à sauver, Jésus aurait foncé juste pour dire « je vais pour lui, j'y vais pour elle ». Tant pis, s'il n'y a que elle ou lui, j'y vais. Jésus est mort pour le poids que tu portes en ce moment. Pour le poids de ton péché, de ta culpabilité. Jésus est mort pour que tu puisses avoir la vie. Jésus est mort alors que tu méritais rien. Il est mort pour que tu puisses être sauvé. Il est mort parce que tu es précieux et précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur. Même si tu es en train de te dire, mais tu sais même pas ce que j'ai fait, tu sais même pas qui je suis, comment est-ce qu'il pourrait m'aimer moi? Dieu t'aime. Dieu t'aime et il est la solution à tout. Il est la solution à ce vide que tu ressens, à cette détresse que tu ressens. Il n'y a aucun autre plus beau cadeau que celui-là. Dieu te lance la bouée de sauvetage ce matin. Dieu te lance juste une bouée. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux que Jésus vienne te sauver ce matin? Te pardonner, te changer, te transformer? Si c'est ton cas, si tu sens dans ton cœur comme un vide qui a besoin d'être rempli, tu sens dans ton cœur qu'il y a comme une soif, une faim, une détresse, quelque chose qui hurle de douleur au fond de toi. Si tu sens dans ton cœur que tu as juste besoin qu'on vienne te sortir de là, alors que tout le monde a les yeux fermés, alors que tout le monde est à sa place, c'est vraiment toi. Je t'invite juste à lever la main comme un cri à l'aide à Dieu. Viens juste m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Viens me sortir de là. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent. On va prier ensemble. Et j'ai invité tout le monde, toute l'église, ceux qui ont levé la main, ceux qui n'ont pas levé la main, ceux qui... Peu importe, tout le monde, je vais faire une prière et vous allez répéter après moi. Mais que cette prière résonne dans ton cœur. Si t'as levé la main, si t'as pas osé lever la main, mais que cette prière résonne vraiment dans ton cœur, que ce soit ta prière ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à croire ce matin.